France Culture, il est midi et demi. Et de ce studio, Rosalie Lafarge vient de rejoindre. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Oui, mais non. Oui pour l'accord, non pour le calendrier. Énième blocage britannique dans l'épineux dossier du Brexit. Comment les Européens vont-ils tenter de s'en sortir cette fois? On voit cela avec notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin, dès le début de ce journal.
Et dans ce journal, nous irons également en Turquie. Ankara a annoncé hier soir la fin de l'offensive turque dans le nord de la Syrie, puisque les forces kurdes se sont retirées des zones frontalières. Le grand gagnant dans cette affaire, c'est Bachar el-Assad, nous dira notre envoyé spécial en Turquie, Éric Biegala.
À la une en France, un plan national pour les aidants. Il vient d'être dévoilé par le gouvernement. Quelles sont les principales mesures à retenir et surtout qu'en pensent les principaux concernés? On posera la question à Florence Leduc, la présidente de l'Association française des aidants et l'invitée de cette édition.
François Hollande liste ses propositions dans un livre publié aujourd'hui. L'ancien président veut mettre en place un véritable régime présidentiel et supprimer le Premier ministre. Il en profite pour régler quelques comptes, vous l'entendrez.
À suivre également le retour de François Baroin, rue de Vaugirard. Il n'avait plus mis les pieds au siège des LR depuis 2 ans. Il revient avec de nouvelles fonctions au sein du parti. À 12h55, Olivia, dans la suite de la Grande Table.
La philanthropie, le mécénat, est-ce la dépendance de l'art? On en parlera avec notre invitée Anne Monnier. Elle a mené et dirigé une enquête importante sur les contributeurs, les mécènes américains qui aujourd'hui donnent en France à des institutions culturelles. Elle nous en parlera dans une vingtaine de minutes.
À tout à l'heure. Il est interminable et a visiblement vocation à le rester. Le feuilleton du Brexit se poursuit inlassablement. Boris Johnson le répète à l'envi. Le Royaume-Uni quittera l'Union européenne à la fin du mois. Hier, les députés britanniques ont voté en faveur de l'accord négocié par leur Premier ministre, mais ils ont demandé plus de temps pour examiner le texte. Résultat, le président du Conseil européen, Donald Tusk, recommande aux États membres de l'UE d'accepter un troisième report. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, Angélique. La vraie question maintenant pour les Européens, eh bien, c'est la durée de ce report.
Oui, et ce sera sans doute au cœur de la discussion qu'auront cet après-midi les ambassadeurs des 27 États membres. Mais ils vont d'abord analyser cette situation nouvelle. Ce qui est certain, c'est qu'un report court de quelques jours, voire quelques semaines, ne posera sans doute pas de problème. S'il s'agissait de laisser à la Chambre des communes un peu de temps pour analyser l'accord obtenu la semaine dernière et l'adopter, on ne voit pas l'Union le refuser. Même Paris, dont la stratégie est depuis le début de limiter la durée des reports successifs pour faire plier les Britanniques, l'acceptera. Et cela pourrait se faire par une simple déclaration écrite. Pas besoin de réunir les chefs d'État et de gouvernement, a précisé hier soir sur Twitter le président du Conseil, Donald Tusk. Mais si le report devait être plus long, rappelons que la demande envoyée ce week-end est de 3 mois pour un Brexit au 31 janvier prochain, eh bien le débat entre les 27 pourrait être plus compliqué. La France a déjà fait connaître sa position. Nous ne pouvons pas étendre à l'infini cette situation, a déclaré la secrétaire d'État aux Affaires européennes hier soir. Pour Amélie de Montchalin, le temps seul n'apportera pas de solution et rediscuter de l'accord est totalement exclu, confirme une source diplomatique française. Or, c'est ce qui se profile à Londres. Les députés britanniques veulent introduire des amendements lors de l'examen du texte. La situation reste donc confuse pour les 27 appelés à se prononcer et sans clarté politique, eh bien, on se dirigera peut-être vers un nouveau sommet européen. Ce n'est pas la fin de l'histoire, vient de déclarer à notre micro le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, qui mise évidemment sur un délai court et technique pour faire passer cet accord qu'il a obtenu à l'arraché.
Angélique Bouin, correspondante de France Culture à Bruxelles. Le Royaume-Uni, où l'on a découvert 39 corps dans un camion la nuit dernière dans l'Essex à l'est de Londres. Selon les premiers éléments de l'enquête, le véhicule venait de Bulgarie. Le chauffeur a été arrêté pour meurtre. Recep Tayyip Erdogan évoque un accord historique, référence à ce compromis négocié par le président turc et son homologue russe hier à Sotchi. Ils se sont accordés sur un retrait des forces kurdes du nord-est de la Syrie, prenant le contrôle en commun de la majeure partie de cette zone. Mais dans tout cela, Éric Biegala, ce ne sont ni Vladimir Poutine ni Recep Tayyip Erdogan les grands vainqueurs.
Le grand gagnant de cet accord de Sotchi, c'est incontestablement le régime de Bachar al-Assad. Si les termes de l'accord sont effectivement respectés, les milices kurdes devront, à partir de ce mercredi, évacuer toutes les positions tenues sur la frontière et les troupes de Bachar al-Assad prendre leur place. Cela veut dire aussi les seules véritables agglomérations de ce nord-est syrien. Autrement dit, la plupart des villes, y compris, c'est explicite dans l'accord de Sotchi, deux villes qui ne sont même pas sur la zone frontière, Manbij et Tal Rifat, mais que les Kurdes sont censés évacuer également au cours des 6 prochains jours pour les laisser la place au régime. Ce régime de Bachar al-Assad récupère donc ainsi la quasi-totalité du Nord syrien sans avoir eu à tirer le moindre coup de fusil. Paradoxalement, Recep Tayyip Erdogan, avec son offensive sur les zones tenues par les Kurdes de Syrie, a offert sur un plateau l'un des gains territoriaux les plus importants à celui-là même qu'il considère comme parfaitement illégitime, Bachar al-Assad.
Éric Biegala, envoyé spécial de France Culture en Turquie, avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Le ton change au Chili. Le président Sébastien Piñera demande pardon à ses compatriotes après 5 jours d'émeutes. Elles ont fait 15 morts. Le chef d'État chilien propose désormais une série de mesures sociales pour sortir de cette crise, partie de l'augmentation du prix du ticket de métro. Parmi ces mesures, l'augmentation de 20% du minimum retraite et le gel des tarifs de l'électricité. Il est le deuxième président tunisien élu au suffrage universel direct depuis la Révolution. Tout juste choisi pour prendre la suite de Bejikaïd Essebsi, Kais Saied vient de prêter serment devant l'Assemblée à Tunis où vous vous trouvez, Maureen Mercier.
Un hélicoptère vole au-dessus du Parlement qui n'a jamais été aussi plein depuis plusieurs années. Kais Saied est apparu droit comme un i pour prêter serment et prononcer un discours. Discours très attendu. Rappelons que Kais Saied est un novice en politique et que ce sont les jeunes écœurés par la classe politique traditionnelle qui l'ont porté à la présidence. C'est sans doute le président qui soulève le plus d'espoir depuis la Révolution. Comment envisage-t-il son rôle, lui qui n'a pas de parti? Comment luttera-t-il contre la corruption? Comment réussira-t-il à enfin mettre en œuvre les espoirs nés lors de la Révolution? Ses adversaires craignent qu'il soit trop proche des islamistes d'Ennahda ainsi que des salafistes. Les Tunisiens attendent donc de ce discours d'y voir plus clair, de savoir qui véritablement ils ont élu président. Ce novice en politique, désormais donc à l'épreuve du pouvoir, énormément d'attentes, de poids sur ses épaules. Il a désormais une semaine pour confier au parti islamiste Ennahda, vainqueur des élections législatives, la formation d'un nouveau gouvernement.
France Culture à Tunis avec Maureen Mercier. C'est une première, le sommet Russie-Afrique à l'initiative de Vladimir Poutine vient de s'ouvrir à Sotchi. On y voit le symbole des ambitions grandissantes de Moscou dans la région. Une quarantaine de dirigeants africains participent à ce sommet. Bonjour Daniel Vallot.
Bonjour.
Vous êtes à Sotchi pour cette première journée qui sera marquée par les questions économiques.
Absolument, la Russie veut gagner des marchés en Afrique, elle veut diversifier ses échanges, ne pas se contenter de vendre des armes et des céréales et rattraper le temps perdu dans les années 90. C'est ce qu'a souligné tout à l'heure Vladimir Poutine qui s'exprimait aux côtés de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. La Russie est de retour en Afrique, mais ce retour est encore modeste et le président russe veut aller plus loin dans cette reconquête, en tout cas dans la sphère économique.
За 5 лет взаимный российско-африканский товарооборот вырос более чем в 2 раза.
En 5 ans, le volume de nos échanges a doublé pour atteindre les 20 milliards de dollars.
Мне кажется, что это слишком мало.
Je pense que ce n'est pas assez, surtout que sur ces 20 milliards, 40% viennent de nos échanges avec l'Égypte. Mais je crois que nous sommes capables dans les 5 ans à venir de doubler au minimum le volume de nos échanges avec l'Afrique.
Voilà pour les objectifs économiques de la Russie en Afrique. Moscou a bien sûr d'autres ambitions sur le continent. On a beaucoup parlé ces 2 dernières années de la présence de mercenaires russes dans certains pays, de la...
Daniel Vallot qu'on vient de perdre qui était à Sotchi. Daniel Vallot, correspondant de RFI en Russie, qui était là pour France Culture pour nous expliquer cette première journée du sommet Russie-Afrique avec cette volonté donc de Vladimir Poutine de renforcer la présence de la Russie en Afrique. Le raid déployé à Saint-Raphaël dans le Var, un homme s'est retranché ce matin dans le musée archéologique de la ville. Il a été interpellé. Des inscriptions menaçantes ont été inscrites sur les murs de l'établissement, mais pour l'instant, ses motivations restent inconnues. Ils sont entre 8 et 11 millions en France, les aidants, ces hommes et femmes qui aident un proche malade. Le gouvernement dévoile aujourd'hui depuis l'Essonne son plan pour favoriser le quotidien de ces aidants. Bonjour Laura Lavenne.
Bonjour Rosalie, bonjour à tous.
À la manœuvre, Édouard Philippe, le Premier ministre, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qu'ont-ils annoncé?
Une nouveauté parmi les annonces, la création en 2020 d'une plateforme de répit pour les aidants, un réseau de lieux d'accueil temporaires au sein, par exemple, d'un établissement adapté, labellisé, mais aussi des solutions de relais directement au domicile des aidés. L'idée étant de permettre aux aidants de souffler un peu, qu'ils puissent prendre soin d'eux, ne serait-ce que le temps d'un week-end, dans une vie parfois entièrement consacrée à l'autre. La ministre de la Santé s'est donc engagée à financer d'ici 2022 200 000 solutions de répit supplémentaires, soit le le double qu'actuellement pour un montant total de 105 millions d'euros. Toujours dans cette même logique de repos pour l'aidant, le gouvernement a confirmé ce qu'il avait déjà annoncé au sortir de l'été, à savoir la création à l'automne prochain d'un congé indemnisé à hauteur de 43 euros ou un peu plus en fonction de la situation maritale. Ce congé qui s'étalera sur 3 mois fractionnables sera, on le rappelle, intégré au budget 2020 de la Sécurité sociale. Ce plan entend également toucher les jeunes ou très jeunes aidants, ce qui correspond à ce que réclamaient les associations, autrement dit la prise en compte des collégiens, des lycéens au service d'un parent. Selon les chiffres détaillés par la secrétaire d'État Sophie Cluzel, ils sont environ 500 000 en France. L'objectif étant là encore de reconnaître le rôle d'aidant et d'améliorer leur qualité de vie. Un enjeu individuel mais aussi collectif, a reconnu le Premier ministre Édouard Philippe.
Et avec nous pour en parler, Florence Leduc. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'Association française des aidants. Au regard de ce qui vient d'être annoncé, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement se montre enfin à la hauteur du sujet ?
Alors, moi je préside une association qui existe depuis 2003, dont je suis présidente depuis maintenant 10 ans. Et tout le combat c'était les aidants, ces invisibles, parlons-en. Eh bien aujourd'hui, la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'on en parle et que nous avons joué notre rôle, qui est un rôle d'alerteur, le réveil de la société et des pouvoirs publics pour dire on est sur une situation sociale, sur cette question des aidants qui n'est pas reconnue, qui n'est pas connue, qui fait qu'aujourd'hui on est en capacité de décrire la difficulté dans lesquelles sont certains, la non-difficulté pour d'autres d'ailleurs qui se débrouillent bien, et que donc c'est notre rôle est accompli, c'est d'alerter des pouvoirs publics pour dire il faut maintenant prendre cette situation en considération au niveau des politiques publiques.
Alors certes, on en parle, mais la promesse d'un tel plan, c'était quand même, on le rappelle, d'améliorer le quotidien, la vie des millions d'aidants que compte la France, des filles relevées partiellement, entièrement ou pas du tout.
C'est bien évidemment trop tôt pour le dire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est cette reconnaissance, c'est la volonté de ne pas recommencer ce qui a été fait, mais de l'additionner et de mettre en œuvre des choses qui sont le plus près possible de ce que les aidants attendent. Et aussi de supprimer les contraintes qui ont des conséquences extrêmement graves. Par exemple, lorsque l'aidant est obligé de s'arrêter de travailler pour s'occuper de ses proches, c'est une rémunération qu'il n'y aura pas, c'est une retraite qui sera complètement amputée du temps qu'on a passé auprès de son proche. Donc il y a beaucoup de questions qui se jouent au niveau des aidants. Il y a le quotidien, il y a les questions de financement, il y a les questions de la conciliation entre les différents domaines de la vie et la fonction de proche aidant. Et c'est tout ça qu'il va falloir pétrir et remettre à l'ordre du jour pour que, avec la mise en place de ces mesures qui souvent complètent des mesures qui existaient déjà, on puisse aller plus loin dans la question de l'accompagnement des gens, dans leur capacité aussi à aider et en leur permettant de faire un choix libre et éclairé des modalités avec lesquelles ils vont être en possibilité d'accompagner leurs proches.
Oui, là, Agnès Buzyn annonce un numéro d'appel unique de soutien aux aidants, la création d'un réseau de lieux d'accueil labellisé. On sait que le reproche qui est souvent formulé, c'est le manque de cohérence parmi toutes les structures qui sont déjà existantes. Est-ce que sur cette question de la cohérence, c'est pour vous quand même une promesse de mieux ?
C'est une promesse de mieux, il le fallait. Mais il faudra aussi que nous continuions à jouer notre rôle d'association et d'alerteur pour bien montrer qu'effectivement, il faut qu'on avance dans la cohérence et qu'on ne reste pas bloqué sur des questions administratives, sur des questions de regarder si la personne aide bien, etc. Il faudra qu'on soit effectivement main dans la main et avec un regard qui n'est pas un regard critique, mais une aide aussi pour la mise en place de ces cohérences. C'est fondamental parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment de choses pour les aidants, mais il y en a plein également. Et donc la mise en place d'une coordination que l'ensemble des choses qui sont traitées par les uns et par les autres puissent faire partie d'un ensemble. Et c'est à partir de cet ensemble qu'on va pouvoir permettre aux aidants d'être accompagnés, de faire leur choix et surtout de concilier les domaines de leur vie. Sinon, ça entraîne de l'isolement, ça entraîne de la maladie et ça, c'est pas acceptable.
Vous avez alerté notamment sur les jeunes aidants. Là, il semblerait qu'il y ait une prise en compte. Est-ce que c'est un problème qui, jusqu'à présent, était sous-estimé ?
Ah, c'est plus que sous-estimé. C'était une question qui était totalement ignorée. On ne savait pas qu'il y avait des jeunes aidants. On l'a su il y a... Alors, nous, ça fait depuis 10 ans qu'on travaille sur cette question des proches aidants, avec la mise en place d'une étude, mais également des expérimentations sur la question. C'était dans l'ignorance la plus totale. Ce qu'on a perçu, mais relativement tard, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes aidants un parent dans des situations de monoparentalité, avec aussi des couples qui se séparent plus souvent et un jeune qui est là et qui se pose pas trop la question de s'il faut aller faire les courses, faire à manger, vérifier que les médicaments soient pris, appeler l'infirmière s'il y a un problème, etc. Donc aujourd'hui, il y a l'Association française des aidants qui met en place, qui a beaucoup travaillé là-dessus, en essayant de pas attirer trop l'attention, de peur qu'effectivement, à force de devenir trop visible, ça soit nuisible pour les personnes concernées. Et puis, il y a également l'association JAD qui est en train de mettre en place des dispositifs sur l'ensemble du territoire, comme nous le faisons nous également.
Concernant le congé indemnisé de 3 mois fractionnable qui avait déjà été annoncé au sortir de l'été, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement va assez loin? C'est un congé de 3 mois fractionnable, c'est assez?
Alors pour les personnes qui ont des besoins importants, c'est insuffisant. Mais le monde des aidants n'est pas un monde où tout le monde a besoin des mêmes choses. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est pas de dire tout le monde va en avoir besoin, donc c'est insuffisant. Mais surtout, pour ceux qui en ont le plus besoin, il faut prioriser ceux qui en ont le plus besoin pour pouvoir aller auprès d'un proche. Et ça, c'est, je dirais, on est quasiment tous concernés hein, par cette question de proche aidant. Et donc, il va bien falloir regarder si les montants qui sont mis à disposition vont convenir pour les personnes qui ont le plus de besoin de avoir un congé long et qui soit fractionné. Et éventuellement, réévaluer la situation si effectivement le nombre de personnes concernées est plus important qu'on ne le pensait aujourd'hui. Là-dessus, on ne dispose pas de chiffres pour pouvoir dire, eh bien, il faut aller plus loin. Et puis, il faut aller plus loin aussi dans les droits à la retraite, ça c'est sûr. Quand un aidant s'arrête de travailler, qu'il perd sa rémunération et qu'en plus, il a des droits à la retraite amputés, ça c'est juste pas possible.
Florence Leduc, présidente de l'Association française des aidants, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Culture. Merci également à Laura Lavenne. C'est son premier voyage dans l'océan Indien après Mayotte hier et un crochet par les îles Éparses. Emmanuel Macron arrive à La Réunion. En guise d'accueil, tous les syndicats réunionnais ont lancé un appel à la grève générale. Et si la France se débarrassait de son premier ministre? L'idée est signée François Hollande dans son livre « Répondre à la crise démocratique » publié aujourd'hui chez Fayard. L'ancien président y plaide pour la mise en place d'un véritable régime présidentiel un peu à l'américaine, avec un passage à 6 ans du mandat présidentiel et à 4 pour les parlementaires. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour.
François Hollande qui était l'invité de nos confrères de France Info ce matin et qui en a profité pour envoyer quelques pics dans toutes les directions.
Revigoré par l'accueil réservé à son premier livre bilan, les leçons du pouvoir et fort de son expérience à l'Élysée, François Hollande ne se prive pas de dire ce qu'il pense, même si officiellement il refuse d'être le commentateur des actions de son successeur. Cela dit, sur le chantier des retraites, par exemple, engagé par le chef de l'État et par Jean-Paul Delevoye, François Hollande affiche son scepticisme.
Sur les réformes, sur les retraites, on ne peut pas dire qu'il aille trop vite. Ça fait 2 ans et demi qu'il parle de cette réforme, enfin 2 ans, soyons justes, qu'il parle de cette réforme et dont on ne voit pas le début d'une négociation.
François Hollande rappelle qu'il a réformé avec Jean-Marc Ayrault, son Premier ministre, par la négociation, notamment sur la question de la pénibilité. Mais de là à inventer une nouvelle réforme...
Vous avez vu ce qui se passe? Il va y avoir des dérogations qui vont être accordées aux uns et aux autres, aux policiers, aux militaires, pour les avocats. On va trouver une solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va réinventer les régimes spéciaux tout en ayant inquiété. Donc s'il y a un principe que je veux ici affirmer, si on veut éviter l'inquiétude, il faut lever toutes les incertitudes.
François Hollande chantre du dialogue, d'une société apaisée qui rappelle à l'ordre Jean-Michel Blanquer sur la question du voile islamique. En somme, un ministre ne devrait pas dire ce qu'il pense.
Il a exprimé une position personnelle, mais il est ministre. Et en plus, ministre de l'éducation. Donc, il y a un moment, il faut avoir un principe qui s'appelle celui de la responsabilité.
Alors, question, François Hollande a-t-il un avenir en politique?
Il ne faut jamais refaire l'histoire, il faut plutôt essayer de la préparer.
Préparer l'histoire, c'est une évidence pour les lecteurs de François Hollande qui lui disent que tout n'est peut-être pas fini. Alors le présent de l'ancien président, ce sont des livres qui se vendent bien et qui le maintiennent dans la vie politique.
Pierre Neveu, et faut-il ne pas supprimer le poste de Premier ministre? C'est le thème du billet politique de Stéphane Robert ce matin au sujet des propositions de François Hollande et c'est à réécouter sur franceculture.fr. Nouveau président, nouvelle équipe, tout juste élu, le patron de Les Républicains, Christian Jacob, présente en ce moment la nouvelle direction du parti. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Et dans cette nouvelle organisation, un retour remarqué, rue de Vaugirard, celui de François Baroin.
Oui, le président de l'Association des maires de France siégera au comité stratégique des Républicains. C'est l'un des trois organes du parti, là où se font les arbitrages les plus importants. Il sera entre autres aux côtés de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est exprimé récemment au sujet du maire de Troyes. Dans son livre « Contre-pouvoir » qui vient de sortir, il décrit François Baroin comme un homme enraciné dans la vie municipale, capable d'analyse subtile, en phase avec la nature, la ruralité, le territoire et ouvert sur notre société dans sa diversité. Pas moins d'éloges. D'éloges pour celui qui pourrait incarner la droite en 2022, mais il y a quelques minutes encore, Annie Genevard, la nouvelle présidente du Conseil national, se montrait prudente. On ne peut pas aller trop vite en besogne, insistait-elle, et même François Baroin n'a tiré aucune conclusion. C'est vrai que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy s'était placé en retrait de la vie politique après les législatives de 2017. La crise entre Emmanuel Macron et les élus locaux cette année l'a toutefois replacé sur le devant de la scène. Avec l'Association des maires de France, il a su incarner une opposition ferme au chef de l'État. Et contrairement à Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, le maire de Troyes ne s'est pas placé en rupture avec le parti. François Baroin, c'est la promesse de l'aube, avait glissé sur un plateau télé le député européen Brice Hortefeux à la rentrée. Il lui appartient, s'il le souhaite, de transformer cette promesse en espoir.
Précision signée Anne Fauquemberg. 5,5 milliards d'euros de recouvrement d'impôts, voilà ce que l'État a engrangé sur les 9 premiers mois de l'année. Une hausse de 40% de l'argent qui est dans les caisses de l'État, se félicite le ministre Gérald Darmanin. Il présentait ce matin le bilan de la loi antifraude votée l'an dernier. Elle s'amoncelle sur les côtes et les plages, dégage une odeur nauséabonde et surtout de l'hydrogène sulfuré. Les sargasses sont au cœur d'une grande conférence internationale qui débute aujourd'hui en Guadeloupe. Et l'idée, Célia Kyrès, c'est évidemment d'essayer de trouver des solutions pour lutter contre la prolifération de ces algues est devenue une véritable calamité dans les Caraïbes.
Lorsque ces algues s'échouent de façon massive sur les plages, elles se décomposent et deviennent toxiques. Problème de santé publique, pollution, mauvaise image pour le tourisme, ce phénomène a des conséquences désastreuses pour des îles comme la Guadeloupe. Pour Frédéric Ménard, spécialiste du sujet à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, la principale solution est de mieux prévoir ces invasions de sargasses pour pouvoir par exemple les bloquer au large.
On peut essayer d'anticiper les années où il pourrait y avoir des échouages massifs de sargasses dans les différents endroits, notamment dans les îles de la Caraïbe. Pour cela, développer des outils performants en matière de télédétection, donc d'images satellitales, pour essayer de prévoir l'ampleur du phénomène d'abord à grande échelle et ensuite à une échelle plus fine au niveau des côtes. Et éventuellement, avant qu'elle ne s'échoue, essayer de trouver des moyens, soit pour en ramasser une partie, soit éventuellement pour barrer l'accès aux plages que l'on veut préserver.
Autre solution, ramasser ces algues pour les valoriser en les transformant en biocarburant ou même en matériaux de construction. Cette idée a été proposée par le Mexique. La recherche sur le sujet avance. En tout cas, selon ce scientifique, les îles des Caraïbes sont obligées désormais d'apprendre à vivre avec ce fléau. Le phénomène paraît difficile à endiguer.
Et à l'issue de ce sommet samedi, des engagements doivent être signés en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Elles permettent de capter chaque année près de 70 millions de tonnes de CO2. Elles, ce sont les forêts françaises, utiles mais souffrantes. Les Assises nationales des forêts s'ouvrent aujourd'hui dans le Vexin à l'initiative du collectif SOS Forêt. Membre fondateur Frédéric Bedel s'inquiète au micro de Diane Berger. Pour lui, l'industrie autour de la forêt française ne va pas dans la bonne direction.
Il y a d'une part une grosse pression industrielle sur le bois biomasse, le bois énergie. Donc il y a un encouragement généralisé à faire de grosses industries de prélèvement de bois biomasse, ce qui fait peser une lourde pression sur les forêts. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va souffrir aussi? C'est la filière forêt-bois française. C'est presque autant d'emplois que la filière automobile, la filière bois en France. Si on donne les clés de la forêt à des grosses industries d'exploitation de biomasse, c'est très très peu générateur d'emplois. Donc il y a toute une filière de bois de construction qui risque fort de souffrir, avec beaucoup d'emplois à la clé, une matière première, le bois sous-valorisé, parce qu'on va la brûler au lieu d'en faire quelque chose d'intéressant. Et évidemment, tout ça dans un contexte de crise écologique et climatique. Nous, on estime, et il y a de plus en plus de connaissances scientifiques pour confirmer qu'il faudrait faire exactement le contraire de cette forêt industrielle. Laisser pousser les bois beaucoup plus longtemps, une forêt qui capte du carbone, une forêt qui aide à lutter contre le changement climatique et qui aide à lutter contre la perte de biodiversité.
Photographe, journaliste, cinéaste, 800 personnalités européennes du monde des médias et de la culture réclament une contre-attaque des pouvoirs publics face à Google. Dans une tribune, ils accusent le géant américain de contourner la législation sur le droit voisin, un droit d'auteur réservé à la presse qui doit entrer en vigueur demain en France. La pluie continue de s'abattre sur le sud du pays. L'Aveyron, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var sont en vigilance orange pluie inondation. Les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales sont elle en alerte vague submersion. Ailleurs, le temps reste couvert et à part en Corse où le thermomètre grimpe jusqu'à 25 degrés, les températures vont généralement de 15 à 19 degrés cet après-midi. Ce journal a été réalisé avec Nicolas Paumet et Marie-Claire Oumabadi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 18h avec le journal d'Aurélie Kiefer.